106.9 Mauricie. Commentaire. Que la Mauricie se lève. Voici Robert Aubin.
Salut Robert.
Bonjour Catherine, comment vas-tu?
Ça va bien, ça va bien. Beaucoup de sujets cette semaine. Hein? Bon, on n'a pas manqué d'actualité.
C'est absolument incroyable.
Ouais, tu nous as trouvé un angle. Tu disais hier dans ton courriel que tu considères qu'il n'a pas été encore traité. Tu veux parler de la démocratie canadienne? Est-ce qu'elle a souffert de son financement hétéroclite? Explique-nous ça ce matin.
Ben, en fait, beaucoup a été dit sur l'appui qu'a amené le NPD et le Parti vert au gouvernement fédéral. Moi, j'ai été très longtemps et je suis encore quelqu'un qui supporte l'idée des gouvernements minoritaires, puisque c'est ce que notre système nous permet présentement. On ne peut pas parler de gouvernement de coalition, ce qui pourrait arriver si on revisitait le mode de scrutin, par exemple, pour établir une proportionnelle. Là, on a des gouvernements minoritaires. Et on a vu souvent dans l'histoire, on peut se rappeler de l'époque où les conservateurs étaient minoritaires, entre autres, où Jack Layton avait réussi à faire passer des parties importantes de son programme en négociant, parce que le gouvernement minoritaire nécessite pour pouvoir gouverner un appui d'un autre parti. Donc, il y a une partie de négociation qui s'entame automatiquement. Or, ce qu'on a vu cette semaine, c'est un gouvernement minoritaire, celui de Justin Trudeau, qui agit comme s'il était majoritaire, c'est-à-dire qui ne consent même pas à écouter les demandes ou les offres ou les propositions des autres partis et qui dit simplement « Si ce que je fais ne fait pas votre bonheur, ben voilà, vous avez juste à me renverser et on part en élection. » Alors qu'il n'y a pas grand monde, je pense, qui souhaite aller en élection par les temps qui courent. Mais ce qu'on voit, c'est que Justin souhaite aller en élection, mais ne souhaite pas lui-même déclencher les élections pour pouvoir faire campagne en disant « ben voilà, c'est pas de ma faute si on est en élection, c'est à cause des partis d'opposition et ça va comme ça ». Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que le parti, le NPD ou le Parti vert auraient voté de la même façon s'ils avaient eu dans leur coffre la certitude de pouvoir faire une campagne électorale le lendemain matin? Autrement dit, est-ce qu'ils ont pillé sur leurs principes parce que le financement n'est pas au rendez-vous? C'est clair là, et ça amène toute la question, est-ce que la démocratie est bien servie par notre mode de financement électoral? À mon avis, vivre dans une démocratie, c'est un privilège incroyable, ça a un prix, et on devrait être à la limite fier de financer notre système électoral. Or, on le sait, les conservateurs de Stephen Harper ont fait disparaître le financement public sous une idéologie qui se défend, que je partage pas, mais qui se défend, de dire, ben, c'est aux citoyens à s'impliquer dans les partis politiques et à démontrer leur appui en finançant ces mêmes organisations-là. Ben, évidemment, hein, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout le monde ne ratisse pas dans les mêmes clientèles qui, eux, n'ont pas les mêmes moyens non plus. Ça fait un jeu un peu... Les règles du jeu sont un peu disparates.
Oui, mais en même temps, Robert, je te pose la question.
Vas-y.
Non, mais en fait,
parce que j'ai une crainte qu'on se rapproche d'un système, on n'est pas rendu un système de financement à l'américaine, là, mais de plus en plus, on se dirige vers les partis qui représentent les clientèles les plus nantis sont mieux financés, de toute évidence, et les règles du jeu sont impartiales, plutôt.
OK, mais en même temps, là, bon, si on changeait ça, puis les coffres avaient été bien remplis, on aurait eu quoi à gagner actuellement de partir en élection? Comme citoyen.
Ben, moi, je pense absolument rien. Et c'est là le seul élément, je dirais, de raisonnabilité qui reste au NPD en disant si M. Trudeau veut des élections, qu'il les déclenche et qu'il les assume. Pendant que les conservateurs et les libéraux chicanent en chambre, nous, on va tendre l'oreille à la population qui ne souhaite pas ces élections-là. Et c'est pour cette seule raison qu'on va supporter le gouvernement. J'imagine que les Verts avaient à peu près la même idée en votant pour soutenir le gouvernement, bien qu'on les a moins entendus sur la place publique. Mais ça me fait dire que peut-être il faudrait revoir ce mode de financement public qu'on pense disparu, mais qui, dans le fond, ne l'est pas totalement, puisque quand on parle des remboursements électoraux qui sont faits à chacun des candidats qui obtiennent le pourcentage nécessaire, bien ça, c'est du financement public. Mais encore là, c'est du financement public qui finance encore plus les partis les plus riches. Alors, il y a quelque chose là à revoir.
Ce qu'on observe cette semaine, là, puis je ramène ça à la stratégie, où tu disais tantôt, ben, dans le fond, M. Trudeau a dit « Parfait, nous autres, on est prêts à y aller, mais c'est pas nous autres qui va déclencher, voilà, renversez-nous. » Mais tu sais, il y a un jeu d'hypocrisie, mais je veux pas être pas fine ce matin. Mais l'hypocrisie, tu sais, c'est pas le premier exemple, puis ça sera pas malheureusement pas le dernier. Là, de l'hypocrisie en politique, c'est-tu moi, ou c'est assez fréquent?
Ben, c'est fréquent, mais M. Trudeau, dans sa première élection comme dans celle-ci, ouais, a réussi à faire croire, et là, j'espère qu'on commence à voir clair, il a dans son vocable tout le temps le « travaillons ensemble ». Mais là, à un moment donné, « travailler ensemble », il faut que ça s'applique, là. Et là, il y avait une occasion particulièrement évidente de le faire, puis il le fait pas. Alors, je pense qu'entre le discours et l'action, on est capable de voir la différence.
Oui, oui, là-dessus, je suis bien d'accord. Hey, on est rendu à la section digne de mention, digne de grief. On va commencer par le positif ce matin. Je pense qu'on en a besoin ces temps-ci.
Allons-y. Ben, je voudrais faire un petit tour de chapeau à Ghislain Morissette, journaliste à TVA qui vient de prendre sa retraite, mais qui est aussi beaucoup impliqué dans l'organisme Chaîne de vie qui fait la promotion de la signature de nos cartes pour le don d'organes. Alors, j'en profite pour nous rappeler à tous de vérifier notre carte. Parce que, bon, peut-être on l'a pas signé et que c'est une réflexion qu'on devrait avoir en famille et la signer, mais parfois, au moment du renouvellement de la carte, on oublie de renouveler notre signature à l'endos. Ouais. Alors, je me dis, moi, j'ai fait le truc cette semaine, j'ai ressorti ma carte pour voir si vraiment ma signature était toujours là. Effectivement, oui, elle y était, elle y était. Mais, mais souvent, au moment de recevoir une nouvelle carte, c'est quelque chose auquel on pense pas. Alors, je me dis, bon, ben, il y a eu cet événement ou cette campagne de sensibilisation cette semaine. Profitons-en pour donner un petit coup de chapeau à ça et inviter tout le monde à vérifier si sa carte est bien signée.
Ouais, bien
et si elle l'est pas, avoir la réaction ou bien avoir la réflexion en famille de dire, est-ce que je devrais le faire?
Ouais, mais je pense que de toute façon, signé ou pas, on devrait avoir, c'est un peu ce que Ghislain disait là dans les reportages, parlez-en en famille. C'est pas quelque chose souvent qu'on ose aborder ou qu'on pense d'aborder, mais c'est important. Je pense que ça nous rappelle aussi cet aspect-là. Ton digne de grief, je me doute un peu, ça s'en va à qui ce matin?
Ben écoute, ça s'en va au recteur de l'Université d'Ottawa pour sa gestion, j'oserais dire, sa gestion de crise. Mais c'est là tout l'importance des mots. À mon avis, au départ de cet événement-là, il y a un différent. Il y a un différent entre un professeur et un élève, un étudiant, pardon, on était à l'université, un étudiant, pour un mot utilisé dans un cadre pédagogique. Et ce différent-là a été tellement mal géré qu'il est devenu une crise. Et on peut se questionner sérieusement sur la gradation des moyens utilisés face à l'offense, si offense il y a. Quand un professeur utilise en classe, dans un cadre pédagogique, un mot qu'il croit contextualisé et utilisable, que la première démarche du recteur, ce soit la suspension, c'est sortir les gros canons. Alors que, à mon avis, le travail du recteur, c'était de faire une conciliation, de réunir le professeur, l'élève et de voir comment on peut trouver une situation de passage. Quand on rétablit le professeur dans ses droits, mais qu'on dit à l'ensemble des élèves qui veulent suivre le cours, ben, si vous l'aimez pas, ce prof-là, on va vous en offrir un autre. Et que le prof se retrouve avec un élève dans sa classe, on vient de saper totalement sa crédibilité, simplement pour ce cours-là, mais pour une bonne partie de sa carrière. C'est totalement impensable la façon dont cette crise-là a été gérée, même si il y a des sensibilités desquelles il faut peut-être tenir compte, mais certainement pas gérer de la façon dont ça l'a été cette semaine.
Non. Ben, mettons qu'en gestion de crise, puis ces temps-ci, on en a plusieurs, à plusieurs niveaux, là, c'est là que tu vois les grands leaders de ceux qui ne le sont pas. Là. Je pense qu'on a un bon exemple actuellement avec le recteur à l'Université d'Ottawa. Hey Robert, je te souhaite une belle fin de semaine. On se reparle lundi matin.
Avec plaisir. Bye-bye.
Salut. Bye-bye, Robert Aubin. Lundi, vendredi, 7h50.